en Ésaïe 47, le grand thème, c'est le problème d'une vie trop focalisée sur soi-même. Un des distinctifs de Calvary Chapel, c'est que nous avons une prédication d'exposition suivie, c'est-à-dire que nous suivons le fil de l'écriture, les passages, hein, verset par verset, chapitre par chapitre, qui nous permet de couvrir toute une Bible. C'est bien pour la congrégation parce que justement, on aura une vision globale de ce que dit la Bible. Mais ça veut dire aussi pour le pasteur et aussi pour l'équipe de louanges qui choisit les chansons. Parfois, on arrive à des sujets qui sont un peu difficiles ou parfois gênants de traiter. Par exemple, je n'ai jamais vu une chanson de louange intitulée « La princesse de Babylone que le Seigneur va juger avec toute sa force ». Pourtant, c'est le thème de notre passage. Étrangement, bon, je n'ai pas vérifié, je ne pense pas que ça soit non plus un thème dans les chansons populaires. Je ne pense pas que Stromae, par exemple, a écrit une chanson sur la colère de Dieu. Pourtant, c'est la réalité. C'est ce que Dieu nous présente dans sa parole et il est nécessaire pour nous d'en prendre compte. Donc, pour les musiciens, je vous invite à trouver une belle mélodie. Pour nous les autres, ce qu'on va voir d'abord, c'est que Dieu intervient. C'est une réalité. Et puis deuxièmement, on va voir que le cœur de l'homme est dévoilé pour ce que c'est. Mais c'est ça qui va nous amener à cette glorieuse évangile que nous aimons tant. Donc, pour une vie, le problème d'une vie trop focalisée sur soi, d'abord, on parle de l'intervention de Dieu. Et je vais lire Ésaïe 47, je vais lire les versets 1 à 7. « Descends, assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends les deux molles et moûts de la farine. Retire ton voile, relève les pins de ta robe. Découvre tes jambes, traverse les fleuves, ta nudité sera découverte. On verra ton déshonneur. Je tirerai les vengeances. Je ne frapperai pas avec humanité. Notre Rédempteur s'appelle l'Éternel des armées, le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. J'étais indigné contre mon peuple. J'avais profané mon héritage et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu de compassion pour eux. Tu as lourdement appesanti ton joug sur le vieillard. Tu disais, à toujours, je serai souveraine. Tu n'as pas pris des choses à cœur. Tu ne t'es pas souvenu qu'elles auraient eu une fin. » Voilà. Donc, Ésaïe nous présente une scène en métaphore, hein, c'est une figure de style. Nous savons que Babylone était dirigée par des empereurs, hein, donc des hommes, et pas une princesse. Donc, cette princesse représente Babylone. Donc, elle représente tout ce qui est mal en Babylone. Mais si on veut aller un peu plus loin, sachant que Babylone est aussi une représentation, un type du monde et le système du monde diabolique. Donc, ce passage parle justement de ce qui est mal, de ce qui va vraiment mal avec l'humanité. On pourrait dire aussi, OK, bon, c'est intéressant pour Israël parce qu'ils avaient la loi, mais comment Dieu peut-il tenir une nation païenne responsable pour une loi juive? Parce que, tout d'abord, Dieu est vérité. Il est la vérité. Et lorsqu'il parle, il dit la vérité. Comme il est dit, Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Et lorsqu'il parle, il parle avec cette autorité qui lui est propre. Et quand il a donné la loi, surtout, on pense à ces 10 commandements. Nous réalisons que ces 10 paroles, ces 10 commandements, ne sont pas réduits à une seule nation, à une seule époque en histoire, mais il y a un message universel qui touche le fond de l'humanité et montre à toute l'humanité ce qui est véritablement le bien. Ça, c'est pourquoi on ne va pas dans un pays lointain qui ne parle pas notre langue et trouve que, en fait, il est bien de tuer quelqu'un ou de mentir. Bon, peut-être dans certains coutumes, il y aura des choses, mais sur les registres juridiques, j'avoue que le meurtre, c'est toujours mal. Le mensonge est toujours mal. Et dans même les cultures les plus anciennes, il est toujours bien de respecter ses parents. Donc Dieu, dans son autorité souveraine qui lui est propre, il a la capacité de parler la vérité pour tout temps, pour toute l'humanité. Et comme Salomon a dit, Dieu a placé l'éternité dans le cœur de l'homme. Donc l'homme, la princesse babylonienne et tout ce qu'elle représente, quand on trébuche, quand on transgresse ses lois, on le sait au fond de nous-mêmes. Donc ce n'est pas comme Dieu tient une nation étrangère responsable pour une petite loi qui était dite dans un petit coin de l'univers que personne d'autre n'a entendu. Il leur tient responsable de la justice et de même la vérité qu'il peut et qu'il est connaissable d'une manière ou d'une autre au travers de sa création. Si ce n'était pas suffisant, Dieu, dans sa grâce et générosité, les a envoyés des prophètes tels que Daniel. Et Daniel était le genre de prophète qui a pu parler face des rois. Il a même vu des rois changer par son ministère animé par le Saint-Esprit. Justement, peut-être l'empereur le plus arrogant des Babyloniens, Nebuchadnezzar, a été humilié aussi dans ce ministère de Daniel lorsque toute sa gloire lui était enlevée pendant 7 saisons. Parce que son arrogance était allée jusqu'au ciel. On se rappelle aussi que ils avaient donc un témoignage de leur cœur, un témoignage de la nature, un témoignage prophétique. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour résister à la tentation de massacrer les gens et de prendre toutes leurs affaires pour eux-mêmes. Ce passage est aussi un rappel à Israël. Enfin, tout est dans le nom. Ésaïe est le nom d'un prophète juif. Mais si Dieu permet de voir Babylone comme cela, c'est aussi un message à son peuple. Son peuple qui allait se trouver justement dans une situation très difficile à cause de leur propre faute, leur propre infidélité. Et la tentation sera d'imaginer qu'ils étaient abandonnés par Dieu. Mais là, dans ce passage, on a à la fois un message d'un père qui crie envers ses enfants qui les défendent contre les menaces des pouvoirs plus puissants qu'eux. Comme les Babyloniennes, donc, ne pouvaient pas dire qu'ils ignoraient ce qu'ils ont fait, parce que Dieu a investi la vérité en eux, mais parce qu'ils s'aimaient plus qu'ils aimaient la vérité, et parce qu'ils s'aimaient eux-mêmes, pardon, Dieu allait juger, il allait intervenir. Et l'intervention de Dieu est basée sur, certainement, les Babyloniens les Babyloniennes, la princesse de Babylone, n'avaient pas le sentiment d'être face à la bonté de Dieu lors de cette intervention. Mais c'est à cause de sa méchanceté et son mal que Dieu devait absolument intervenir. Donc, c'est un acte de sa justice et de sa bonté. Donc, c'est important pour nous parce que c'est un rappel que un jour, Dieu va juger. Mais si nous disons ceci, dans toute la vérité qu'elle est, et c'est vrai, Dieu va intervenir, il va juger ce monde, ça serait une erreur de ne pas dire que le péché est déjà jugé et que le jugement n'a pas encore commencé. D'abord, le péché a été jugé en Jésus-Christ pour que tous ceux qui mettent leur foi en lui puissent échapper le jugement éternel. Ce n'est pas comme nous proclamons en tant que chrétiens un jugement sans appel, sans espoir. Voici notre espoir. Romains 5. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourra-t-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Le premier problème d'une vie qui est trop focalisée sur soi-même, elle ne peut pas voir Dieu. Et puisqu'elle ne peut pas voir Dieu, comme la fille de Babylone, enfonce vers notre propre destruction. Alors que Dieu a pourvu l'issue de secours. Deuxièmement, ce contexte que le cœur humain est dévoilé pour ce qui est. Dans ce paragraphe que je vais lire, les versets 8 à 10, passage assez difficile à lire, nous allons voir qu'il y a une devise folle que je pense on entend souvent dans ce monde, qui est « moi et rien que moi ». Et c'est ça vraiment le cœur, je pense, de notre message. Donc, lisons attentivement. « Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, « moi et rien que moi ». Je ne serai jamais veuve, je ne connaîtrai pas la privation d'enfant. Ces deux choses t'arriveront en instant, au même jour. La privation d'enfant et le veuvage, elles fondront sur toi dans toute leur rigueur, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré la puissance de tes pratiques magiques. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta connaissance t'ont tourné la tête. Tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Et voilà vraiment le centre de ce problème d'une vie trop focalisée sur soi-même. En fait, comme c'est souvent le cas, si on revient au langage originel ou même la première traduction en grec, ce point devient assez frappant. Parce que ce qu'elle dit en réalité, c'est qu'elle en fait, elle s'approprie les qualités de la divinité. Elle dit « je suis ». Comme Moïse a entendu l'Éternel dans le buisson ardent. Ou comme Jésus dit « je suis la résurrection et la vie ». Elle dit « je suis ». Bon, c'est de l'égoïsme, certes. Quelque part, on peut, et certains font, bon, est-ce que c'est un lien avec le mythe de Narcissus? Bon, je pense pas, mais oui, c'est narcissiste, oui. Mais plus qu'un simple histoire de quelqu'un qui s'enveloppe et meurt dans le miroir et la réflexion de soi-même, non. C'est surtout une vie envoûtée par lui-même. ses besoins, ses désirs, ses plaisirs, ses ambitions. Mais nous qui sommes créés en image de Dieu, nous avons plutôt à faire de notre monde une belle miroir pour notre gloire, au lieu de faire ce genre de monde autour de nous. Dieu nous appelle à cultiver notre monde pour sa gloire. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous qui sommes nés de nouveau, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et donc, nous avons reçu une puissance d'en haut pour justement travailler dans cette cultivation. Les dons de l'Esprit que nous avons étudiés il y a quelques semaines sont justement pour nous aider à cultiver une église, un monde qui reflète la gloire de Dieu. Et c'est tout ce qui est au contraire d'une vie trop focalisée sur soi-même. Et donc, ce que la fille de Babylone ressentira finalement est la même chose que toute personne qui est trop focalisée sur lui-même, sera un sentiment de manque. Et c'est normal, parce que en réalité, ils sont en train de rater le but de leur vie, de leur existence. Et quoi qu'ils fassent, que ce soit vivre encore pour leur plaisir, c'est leur plaisir. Ou s'ils vivent pour leur travail, ou même s'ils tombent dans la spirale de l'auto-dépréciation, c'est toujours centré sur eux. Et le manque sera toujours là, quoi qu'ils fassent pendant toute leur existence, parce qu'ils ont raté le sens de leur vie. Et la seule chose qui peut nous arracher de cela, c'est une vie transformée par cet évangile. Je reviens parce que c'est la solution. Parce que, heureusement, Jésus n'a pas pensé à lui-même, n'est-ce pas? En revenant sur le thème des chansons de louange, ça c'est pourquoi toutes nos chansons de louange sont à sa gloire. Parce que comme une vie peut être trop focalisée sur lui-même, l'Église peut être aussi trop focalisée sur elle-même. Et ça devient très problématique parce que l'Église, l'Assemblée devient vraiment une assemblée de consommateurs. Et bon, je dis ça en toute connaissance que c'est vraiment grâce à ma nation natale que nous avons ce phénomène. Mais je pense que ça revient un peu plus loin aussi de cette nature pécheresse que nous avons tous. Parce qu'au lieu d'une assemblée de consommateurs, ce que Dieu veut, c'est une assemblée de serviteurs à l'image de son Fils, n'est-ce pas? Si l'Évangile nous restaure, si le Saint-Esprit nous transforme, alors l'occasion de servir les autres devient un sujet de louange et même un moyen d'adorer et de dire merci à notre Rédempteur, tout comme Jésus a fait aussi pour nous. Pour revenir à ce passage douloureux, Dieu révèle les conséquences de leur égoïsme démesuré. Donc je vais lire les versets 11 à 15. Un malheur viendra sur toi, sans que tu en connaisses l'horreur. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Reste donc au milieu de tes pratiques magiques et de la multitude des sortilèges auxquels tu as consacré ton travail et ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui quadrillent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent, d'après les nouvelles lunes, ce qui doit arriver. Voici qu'ils sont comme de la paille qu'un feu consume ils n'arracheront pas leur vie aux flammes. Ce n'est pas la braise de leur pain, un brasier devant lequel on s'assied. Voilà ce que deviendront ceux pour lesquels tu t'es fatigué. Ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse erreront chacun de son côté. Personne ne te sauvera. Donc la princesse de Babylone avait à apprendre que toutes ses armes qu'elle utilisait contre les autres étaient en réalité des bénédictions venue de Dieu qu'elle avait perverti elle-même pour servir à ses propres fins. Et bien donc, et c'est ça ce qui est terrible, c'est que Dieu dit, ok, bon, puisque tu t'es confié dans ton zodiaque, qu'elle te sauve. Parce que le Seigneur a prévu un jour, il interviendra parce qu'il est la vérité. Et je pense que ça c'est important pour nous aussi de se rappeler, enfin, dans les paroles du Christ, tu récoltes ce que tu sèmes. Et donc, ça c'est pourquoi une vie qui est trop focalisée sur soi-même ne peut pas connaître une véritable amitié. Parce que on est tellement focalisé sur soi, plus de place pour l'autre. Au moins, dans le sens que ça devrait être. Et nous sommes faits pour se connaître les uns les autres, nous sommes faits pour connaître une communauté, une famille en Christ. Et une vie qui est trop focalisée sur soi-même sera malheureusement privée de la communion fraternelle. Au moins, ne connaîtrez jamais la profondeur, même la partie gênante, mais si nécessaire, de l'amour fraternel. Parce que les gens qui s'aiment réellement, parfois ils se trouvent en désaccord. Et on a besoin de cela. C'est un peu comme, ben, moi j'étais élevé enfant unique. Et j'ai un frère donc, qui est venu à notre famille plus tard. Je n'avais pas le joie qu'avaient mes enfants quand ils étaient petits, que lorsqu'il y a quelque chose qui va pas, ou par exemple on se lève et les cheveux sont catastrophe. Puis on a la petite sœur, la petite frère qui pointe le doigt et qui rigole. En tant que fils unique, il fallait que j'aille à l'école pour que ça arrive. Quelque part, l'Église a besoin des uns des autres pour ce genre de choses. Mais si on est trop focalisé sur soi-même, on ne va jamais recevoir la correction dont on a besoin. Mais on serait plutôt comme des papillons qui vont de fleur en fleur, d'assemblée en assemblée, là où ça se sent bon. La bonne nouvelle, c'est que, oui, Dieu, il est le seul juge, il est le juste juge qui revient à sa grâce parce qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Mais ça, c'est pourquoi le refus de Christ entraînera la colère de Dieu si sévère. Qu'est-ce que Dieu aurait pu faire de plus? C'est un peu comme ce que dit C.S. Lewis. Les portes de l'enfer se ferment à l'intérieur. Ce n'est pas qu'on est jeté en enfer. C'est par ta volonté que tu seras exclu. Et donc, l'expression « les portes de l'enfer se ferment à l'intérieur ». Pour résumer, le problème d'une vie trop focalisée sur soi-même. Et là, quand on pense à cette princesse, Elle représente tout ce qui est riche et voluptueuse et tout ce que désire ce monde. Et on peut penser justement à certaines couches de la société, les célébrités, des influenceurs, des hommes politiques. Mais dans cette liste, c'est toujours les autres que je pense que Dieu veut nous parler à nous. Une vie trop focalisée sur elle-même, ça se voit dans l'autodépréciation, ça serait aussi la rivalité, conflit sans cesse, celui qui vit pour ses plaisirs, ses ambitions, ça nous concerne tous. Alors que faire?
Ah, c'est une bonne question.
D'abord, il faut reconnaître. Il faut reconnaître les choses pour ce qu'elles sont. Il faut confesser le péché. Parce que c'est là où ça commence. Et puis, on demande pardon. On demande à Dieu de nous travailler, qu'il entre par son esprit, nous transformer. C'est le seul vrai espoir qu'on a, c'est que son esprit nous travaille. Sinon, ben, en fait, on va améliorer certaines faces du problème tout en gardant une certaine arrogance d'avoir réussi. Donc, on demande d'être transformé par le Saint-Esprit. Et puis, pour bonne mesure, il est toujours de bonne pratique de chercher à servir les autres. Attention, pas pour pénitence.
Not for penitence.
Parce que ça, c'est encore une vie focalisée sur soi-même, parce qu'on veut absoudre notre propre péché. C'est nous qui faisons le travail. Mais pour donner l'occasion à Christ de nous transformer et d'être glorifié dans notre vie. Parce qu'on revient à ça. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous.
Prions.
Bonne nouvelle, cette glorieuse nouvelle, que lorsque nous étions encore pécheurs, Seigneur, je confesse, nous confessons tous, nous sommes trop focalisés sur nous-mêmes. Pardonne-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Transforme-nous et dirige-nous. Montre-nous là où nous pouvons être à service aux autres. Et nous prions dans le nom de Jésus. Amen.